Michel-Ange par Gaston de Ris. Artiste complet, comme plusieurs génies de la Renaissance, comme Léonard de Vinci, à la fois peintre, sculpteur, poète, musicien, ingénieur, philosophe, Michel-Ange Buonarroti, que la postérité ne connaît que sous son prénom, fut à la fois statuaire, peintre, architecte, ingénieur et poète. Il naquit en 1475 au château de Caprese, dans l'Arezzo. Il descendait d'une des plus vieilles familles de Toscane. Son père, le podestà Buonarroti Simoni, le destinait au métier des armes et caressait l'espoir qu'il soutiendrait dignement le renom d'une antique maison. Il considérait la profession d'artiste comme indigne d'un homme bien né, et l'extraordinaire précocité de son fils dans les arts du dessin, loin de le réjouir, lui parut de fort mauvais augure et éveilla chez lui le blâme et le sarcasme. Le petit Michel-Ange recevait les leçons de François Granacci, élève de Ghirlandaio. Dès que ses parents s'aperçurent des prodigieuses dispositions de l'enfant, ils éloignèrent vite son professeur. Mais le jeune Michel-Ange était de ces enfants sublimes, marqués au front par le sceau du génie, et dont la vocation se joue de tous les obstacles. Granacci continua de donner des leçons à son élève, mais en secret. Quand le podestat connut que ses ordres avaient été enfreints, il enjoignit avec rudesse à Michel-Ange d'abandonner les arts. L'enfant, impassible, répondit que rien ne pourrait le contraindre, sinon la force et la perte de sa liberté, à ne pas mettre en œuvre les dons qu'il avait reçus en naissant. Il obéissait à une volonté qui dépassait la sienne. Peindre, dessiner, sculpter, c'était pour lui un besoin irrésistible. Mieux valait lui demander de ne pas respirer que de trahir sa vocation. Le père de cet enfant, qui devait devenir le plus illustre statuaire de la Renaissance, essaya encore de brider sa passion pour les arts. Mais rien ne put fléchir la résolution du petit Michel-Ange. Aussi bien l'enfant s'était déjà acquis par sa prodigieuse habileté de peintre et de dessinateur une manière de célébrité. 100 voix s'élevèrent pour assurer à son père que les plus beaux triomphes l'attendaient. Buonarroti Simoni se laissa toucher enfin. Le jeune Michel-Ange fut placé chez Dominique et David Ghirlandaio, qui comptait parmi les peintres les plus réputés de la Toscane. Il n'avait pas 14 ans. Mais ce qui montre bien en quelle estime des maîtres tels que les Ghirlandaio tenaient son précoce génie, c'est que, loin de réclamer une rémunération pour son apprentissage, ils s'engagèrent au contraire à lui verser des subsides. D'ailleurs, l'élève ne tarda point à surpasser ses professeurs, et c'est lui qui bientôt corrigera leurs desseins. N'ayant plus rien à apprendre de ses maîtres, c'est dans lui-même, c'est dans son propre génie qu'il puise son inspiration. Une nature médiocre, sans guide, eût été perdue. Un artiste de la trempe de Michel-Ange n'est devenu si grand, n'a enfanté des conceptions si neuves et si hardies, que parce que tous ceux qui auraient pu gouverner son essor s'effaçaient timidement devant sa supériorité. Cette supériorité suscitait chez ses condisciples d'ardentes jalousies. Un d'eux, Torreggiani, laissa éclater son ressentiment avec sauvagerie et le frappa si brutalement qu'il lui brisa le nez. Michel-Ange porta toute sa vie la marque de cette violence et son nez demeura écrasé dans son visage osseux, à la fois mystique et passionné, au vaste front ridé, aux tempes saillantes, aux yeux bruns moirés de filaments bleus et jaunes, d'une extrême luminosité, aux lèvres minces, à la barbe noire partagée en 2 touffes en vrille. Torreggiani fut exilé de Florence par Laurent le Magnifique, qui admirait les premiers essais en sculpture de Michel-Ange. Il avait eu pour nourrice la femme d'un sculpteur et se plaisait à répéter qu'il avait sucé, avec les sucs de la vie, l'amour de la sculpture. Laurent de Médicis, le complimentant sur un masque de faune qu'il venait d'exécuter, déclara qu'il n'y trouvait qu'un léger défaut. Ce satyre, étant vieux, n'aurait pas dû posséder toutes ses dents. Michel-Ange fit sauter l'une des dents du faune et fouilla la gencive. Laurent offrit au jeune Michel-Ange un appartement dans son palais et le combla de bienfaits. Les meilleurs peintres et les sculpteurs de l'époque se retrouvaient à la cour du prince. Mécène attentif et généreux, qui tout en réunissant une éclatante collection d'antiques, accordait la protection la plus large et la plus éclairée aux artistes contemporains. Michel-Ange sculpte la Madone en bas-relief de la Casa Buonarroti à Florence et le combat des centaures et des lapites. Malheureusement, Pierre de Médicis n'hérita point des goûts esthétiques de son père. On en jugera en apprenant que ce prince employa le génie michel-angesque pendant tout un hiver à modeler des statues de neige. l'Italie était déchirée par des guerres et des séditions continuelles. Les artistes suivaient la fortune des princes. Loin de tarir leur inspiration, il semble que cet état d'insécurité l'ait exalté en les détachant d'un bien-être prosaïque. Leur imagination, au lieu de s'engourdir dans la quiétude matérielle, trouvait au sein d'une vie âpre et chaotée des ressorts plus nerveux, en même temps que des raisons plus profondes d'aimer leur art, refuge et fin suprême. Les Médicis sont chassés de Florence et leurs clients persécutés. Michel-Ange gagne Venise, puis Bologne, où il exécute l'ange agenouillé destiné au tombeau de Saint-Dominique. Après 3 années d'absence, Michel-Ange reparaît à Florence. Il avait à peine 20 ans, il était célèbre. Il produit un Cupidon endormi, si parfait, qu'il est vendu pour un antique au cardinal de Saint-Georges. Appelé à Rome sous le pontificat d'Alexandre VI, il donne son célèbre Bacchus, et son Adonis mourant convoie au musée de Florence et surtout la magnifique Pietà, le groupe fameux qui orne la chapelle du Crucifix dans la basilique de Saint-Pierre. De retour à Florence, Michel-Ange y sculpte son orgueilleux David dans un bloc de marbre colossal ébauché, puis abandonné depuis un siècle par le ciseau chétif de Simon de Fiesole. Il passe de la statuaire à la peinture, brosse une sainte famille, qu'on admire au musée des Offices, un de ses rares tableaux du chevalet, puis le carton de la guerre de Pise, dont nous n'avons plus que des reproductions incomplètes. Il avait été chargé par le Sénat, concurremment avec Léonard de Vinci, de décorer la salle du Conseil. Les cartons de ses compositions, détruits dans les troubles de Lombardie, excitaient l'admiration d'un Raphaël, d'un Benvenuto Cellini, de tous les artistes de la Renaissance. L'élévation au siège de Saint-Pierre de Jules II, fastueux protecteur des arts, ramène Michel-Ange à Rome. L'ambitieux Jules II rêvait d'éterniser sa mémoire par une sépulture qui surpassa en splendeur toutes celles qu'on connut. Il se commanda un mausolée, mélange d'architecture et de sculpture, qui devait comporter une 30aine de statues. Bien qu'il ait consacré près de 40 années à ce prestigieux monument, Michel-Ange n'acheva que quelques statues, comme l'illustre Moïse, comme les 2 esclaves qui sont au Louvre ou le génie de la victoire qui est à Florence. L'architecte Bramante, favori de Jules II, voyait d'un mauvais œil un projet qui ne pouvait que l'humilier, diminuer son crédit et par contre-coup léser ses intérêts pécuniaires. Il insinua adroitement au pontife que les personnes qui faisaient construire leur sépulture de leur vivant étaient parfois punies par le destin de ce présomptueux dessein. S'apercevant que le pape ne le recevait plus avec le même empressement, Michel-Ange quitta fièrement Rome. Le pape envoya à Florence courrier sur courrier. Inflexible, Michel-Ange refusait de réintégrer Rome. Sa sainteté n'avait qu'à choisir un autre sculpteur. En désespoir de cause, Jules II intima au Sénat l'ordre impérieux d'obliger Michel-Ange à retourner à Rome. Michel-Ange, dont on ne saurait trop admirer l'indépendance de caractère, répondit avec une hauteur non exempte de persiflage qu'il irait plutôt à Constantinople, où le sultan le priait de venir construire un pont. Il fallut que le pontife lui députât le cardinal Soderini pour l'amadouer. Le pape, qui attendait Michel-Ange à Bologne, l'accueillit par ses paroles désenchantées mais sans rancune. « Ce n'est pas vous qui êtes venu nous trouver. Vous nous avez obligés à aller vous chercher. » Jules II lui commanda aussitôt sa statue en bronze. Petite cause, grands effets, c'est à la jalousie de l'architecte Bramante que l'on doit les fresques sublimes de la chapelle Sixtine. Pour éloigner Jules II de continuer les travaux du mausolée, ce Bramante lui proposa de faire peindre la grande voûte de la Sixtine. Pendant 20 mois, claustré dans la chapelle, Michel-Ange poursuivit sans arrêt ce travail de titan, créant un nouveau type pictural, inventant, selon le mot de Péladan, une sorte de surhomme plastique, distribuant dans une épopée orageuse l'âpre splendeur de l'Ancien Testament, éperdu de lyrisme, fou de couleurs et de mouvements, passant avec un égal bonheur par toute la gradation des sentiments, idylliques ici, impétueux là, paroxysme et suavité. Après avoir donné cette marque fulgurante de son génie, Michel-Ange se remit au mausolée, mais Jules II mourut et Léon X l'envoya à Florence, sa ville natale, pour édifier la façade de l'église Saint-Laurent. Michel-Ange était mis en concurrence avec les plus fameux artistes de son temps et même avec Raphaël. Il l'emporta sur tous. Léon X mourut. Il fut remplacé par un pape hostile aux arts, Adrien VI. Le monument ne fut jamais achevé. Heureusement, un autre Médicis est appelé au trône de Saint-Pierre, Clément VII. À Rome, Michel-Ange dote d'un Christ austère l'église de la Minerve. À Florence, il travaille au tombeau des Médicis. Mais voici de nouveau l'Italie ensanglantée, Rome saccagée, les Médicis expulsés de Florence. Comme Benvenuto Cellini au siège de Rome, comme Léonard de Vinci qui eut l'intuition des chars d'assaut et des mines, Michel-Ange devient ingénieur militaire. Commissaire général des fortifications, il soutient Florence à long siège, préserve les monuments des coups de l'artillerie ennemie. Au milieu des angoisses de la lutte, il peignait sa Leda et sculptait ses mausolées. Florence prise, Michel-Ange se cache à Venise. Mais Clément VII jette le voile de l'oubli sur les dramatiques événements qui viennent de se dérouler et lui ordonne d'achever les tombeaux des Médicis. Il peint la terrible tourmente de son jugement dernier dans la chapelle Sixtine. Paul III le nomme architecte de Saint-Pierre, dont il construit la fameuse coupole. Sa volonté ardente donne un nouveau visage à la place du Capitole, couronne le palais Farnèse d'un merveilleux entablement, tandis que le poète cisèle des canzone et des sonnets aux rimes opulentes et aux pensées sereines. Infatigable, il travaille jusqu'aux portes de la mort. Il disparaît à 89 ans, après avoir dicté à son neveu ce bref testament « Je laisse mon âme à Dieu, mon corps à la terre, mon bien à mes parents les plus proches. » Cet homme, qui s'en allait chargé de gloire et de richesse, méprisait le luxe et les grands. Il vivait en philosophe stoïque, dormait souvent tout habillé, pratiquait une extrême frugalité. Inflexible dans son caractère et dans ses mœurs, il ne rechercha jamais la gloire, il ne s'humilia jamais devant les puissants. Ce misanthrope austère était aussi un misogyne, il ne se maria point. Il disait qu'il avait épousé son art, que ses enfants étaient ses ouvrages, et que cette postérité lui suffisait. Ainsi s'achève Michel-Ange par Gaston de Risse.